très important au point de vue théologique, je vous conseille de l'avoir dans votre bibliothèque. Parmi les ouvrages que j'ai cités jusqu'à présent, il y a deux ouvrages de Saint-Augustin que vous devriez posséder. C'est le livre des Confessions de Saint-Augustin et puis le livre que je vous ai signalé comme étant peut-être le plus important, pour la, non pas tellement pour la théologie, mais pour toute la pensée médiévale, La Cité de Dieu. Donc deux ouvrages de Saint-Augustin à posséder. De même, il y a deux ouvrages à posséder de Saint-Anselme. Le premier dont je vous ai dit quelques mots, son Proserpion, et l'autre dont je vous parle aujourd'hui, qui est le cours Deus Homo. Pour Deus Homo. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Pourquoi Dieu s'est... Au fond, normalement, il faudrait l'écrire en mettant un point d'interrogation. Enfin, dans la plupart des éditions, on met le titre sans point d'interrogation. Dans la collection Sources chrétiennes, que vous connaissez certainement déjà, un ouvrage apparu avec le texte latin et le texte français du Grand Regard, dans Pourquoi Dieu s'est fait homme. Au fond, la question de Saint Anselme n'est pas tellement pourquoi Dieu s'est fait homme, mais pourquoi le Dieu homme. Pourquoi Dieu homme. C'est un ouvrage extrêmement important. Et un des théologiens évangéliques, James Bennett, n'a pas hésité à dire que le cours des Moussomos, je cite, est le plus vrai et le plus grand livre sur l'expiation qui ait jamais été écrit. C'est donc, c'est un ouvrage de James Bennett, c'est un livre sur la mort du Christ qu'il a publié en 1903, et donc le théologien évangélique Bennett, B-E-2-N-E-Y, n'hésite pas à dire que c'est le plus grand ouvrage sur l'expiation qui ait jamais été écrit. D'autre part, pour vous citer quelques autres références du côté réformé, Berkhoff, qui est un excellent dogmaticien américain, d'origine hollandaise, Berkhoff, dans sa systématique théologique, cite à plusieurs reprises Saint Anselme. Et, pour prendre un théologien plus contemporain, bien qu'il soit mort maintenant, John Murray, qui était professeur au Westminster Seminary à Philadelphie, dès le départ de son livre sur la rédemption, dont je vous recommande la lecture si vous lisez l'anglais, John Murray cite dès le départ le cours Deus Homo de Saint Anselme dans son ouvrage donc, sur la rédemption. C'est vous dire que les penseurs réformés font référence à Saint Anselme dès qu'il s'agit de parler de la rédemption, dès qu'il s'agit de parler de l'expiation du Christ. Curieusement, j'ai vérifié que dans l'institution chrétienne, Calvin ne mentionne pas Saint Anselme. Il cite simplement le mot de Saint Anselme en parlant de quelques théologiens médiévaux, mais il ne donne aucune citation de Saint Anselme, alors que vous le verrez par exemple pour Saint Bernard, dont je vous parlerai quand je commence à vous parler dans mon prochain cours. Saint Bernard est cité moult fois, de très nombreuses fois, dans l'institution chrétienne. Mais l'ouvrage classique de la Réforme qui, sans citer le nom de Saint Anselme, emprunte l'essentiel de la pensée de Saint Anselme, c'est le catéchisme de Heidelberg. J'espère que vous avez tous les catéchismes de la Réforme. Si vous ne les avez pas, il faut les avoir. On ne peut pas être pasteur dans une église protestante sans avoir dans un coin de sa bibliothèque les grands textes classiques de la Réforme. Et parmi les textes classiques de la Réforme, il y a le catéchisme de Heidelberg, qui a été publié en 1563. Il avait pour auteur deux jeunes théologiens réformés qui n'avaient pas la trentaine quand ils ont rédigé ce catéchisme, Orsinius et Olympianus. Donc, procurez-vous, vous l'avez peut-être tous déjà, le catéchisme de Heidelberg. Eh bien, dans les questions 12 à 18 du catéchisme de Heidelberg, c'est vraiment saint Anselme qui est employé. On ne donne pas son nom, mais les questions qui sont posées là, ce sont des questions tout à fait anselmiennes. Je vous les lis comme ça, ça vous donnera d'ailleurs tout de suite une idée de la pensée de saint Anselme, qui est résumée dans ces questions 12 à 18 du catéchisme de Heidelberg. Je lis ces questions. Puisque nous avons donc mérité, par le juste jugement de Dieu, un châtiment temporel et éternel, comment pourrions-nous l'éviter et rentrer en grâce? Question 13. Pouvons-nous payer nous-mêmes? Le texte pourrait être traduit, mais il vaut mieux éviter le mot en français parce que ce n'est pas clair, étant donné que c'est un mot qui a complètement changé de sens maintenant. Pouvons-nous satisfaire? Et puis, vous avez ensuite, y a-t-il, question 14, y a-t-il quelque part une simple créature qui puisse payer pour nous? Question 15, quel médiateur et libérateur devons-nous donc chercher? Question 16, pourquoi doit-il être vrai homme et parfaitement juste? Question 17, pourquoi doit-il être en même temps vrai Dieu? Question 18, enfin, mais qui est ce médiateur qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme parfaitement juste? Eh bien, ces questions du catéchisme de Heidelberg sont mot à mot tirées du cours Deus Pour. Mais pour bien comprendre la pensée, croyez de tout leur cœur que c'est la mort de Jésus-Christ qui les sauvait, qu'ils étaient sauvés par la croix. Ils pensaient bien dans leur foi, même si la doctrine n'était pas précisée, qu'il n'y avait de pardon des péchés qu'en raison du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, la foi des premiers chrétiens était là sans que le dogme, si je puis dire, ait été développé. Je dirais que c'est la même chose. Par exemple, les premiers chrétiens croyaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Ils croyaient que le Père était Dieu, que le Fils était Dieu, que le Saint-Esprit était Dieu, mais le mot de Trinité ne leur était pas venu à l'esprit, et c'est seulement avec Tertullien que le dogme de la doctrine de la Trinité sera développé. C'est peu à peu que, pour bien préciser le mystère de Dieu, le mystère de la Trinité, on a édifié, on a construit la doctrine. Il a fallu du temps. Donc, pour qu'on puisse vraiment parler de l'expiation, il fallait d'abord parler de Dieu. Qui était Dieu? Quel était le Dieu révélé par la Sainte Écriture? Quel était le Dieu que nous révélait la parole de Dieu? Donc, c'était le premier point. Ensuite, un deuxième point, il fallait bien voir que Jésus-Christ n'était autre que Dieu, la seconde personne de la Trinité incarnée. Et alors là, on avait la doctrine d'Athanase, c'est Athanase qui a développé le plus cette doctrine de la personne unique de Jésus-Christ, à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. C'est-à-dire que c'est le dogme, la doctrine de l'unique personne et des deux natures de Jésus-Christ. Alors là, je vous ai mis les dates de Tertullien, les dates d'Athanase. Donc il a fallu que peu à peu le dogme de l'unique personne et des deux natures de Jésus-Christ soit là pour bien voir ce qu'allait être, ce qu'était, selon l'Écriture sainte, l'expiation. Ensuite, eh bien, il fallait arriver à l'anthropologie développée par saint Augustin, à savoir que l'homme, et nous arrivons donc, à un développement des doctrines chrétiennes qui forment le fondement ou le soubassement de la doctrine de saint Anselme sur l'expiation. Donc, il faut bien voir, il y a un développement des doctrines à travers l'histoire. peu à peu l'Église, méditant sur le donné révélé, méditant sur la parole de Dieu, voit les doctrines se préciser. Alors on pourrait voir ensuite parler de la doctrine de la justification par la foi, qui a été développée en particulier par Martin Luther. Et puis on pourrait parler de la doctrine de l'autorité souveraine pour l'Église et pour les chrétiens, développée par Calvin, à savoir que l'autorité souveraine n'est autre que Dieu parlant dans la Sainte Écriture. Donc c'est peu à peu que certains dogmes capitaux, fondamentaux de la foi chrétienne ont été perçus. Alors faites attention, ça ne veut pas dire que avant le développement, l'approfondissement de ces dogmes, l'Église et les chrétiens ne croyez pas à ce que ces dogmes précisent et approfondissent. Pour vous donner un exemple, il y a, datant du début du second siècle, l'épître à Dioniette. On ignore l'auteur de l'épître à Dioniette. On ne sait rien d'ailleurs sur Dioniette, qui était le destinataire de l'épître. Mais cette épître à Dioniette, qui est donc des années 110-120 environ, et donc vous pouvez aussi trouver le texte dans la collection Sources chrétiennes. C'est un texte admirable. Je vous en ai apporté une petite traduction. Comme c'est moi qui ai traduit, je ne vous dis pas que c'est la meilleure traduction possible. Enfin, je n'avais pas sous la main l'épître à Dioniette dans le texte français. Alors voilà ce que dit l'épître à Dioniette. Parlant du jeton de nos iniquités. Il a donné son Fils comme rançon pour nous, lui le Saint pour les transgresseurs, lui le sans tâche pour les pécheurs, lui le juste pour les injustes, lui l'incorruptible pour les corruptibles, lui l'immortel pour les mortels. Y aurait-il en dehors de sa justice quoi que ce soit pour couvrir notre péché? Y aurait-il pour nous justifier, nous pécheurs et sans Dieu, quoi que ce soit en dehors du Fils unique de Dieu? Ô doux échanges, ô actions introuvables, ô bénéfices dépassant toute attente, voici qu'un unique juste cache l'injustice d'un grand nombre, voici que la justice de cet unique justifie un grand nombre de transgresseurs. Alors là, dès au début du second siècle, un texte qu'on pourrait presque trouver sous la plume de Saint Anselme, qu'on pourrait presque trouver sous la plume de Luther et de Calvin. C'est un texte montrant comment notre justice et notre salut sont en Jésus-Christ. Donc, faites bien attention, ça ne veut pas dire qu'on a attendu dès qu'il y a pour croire à la Trinité, mais on croyait à la Trinité sans que le dogme ait été suffisamment approfondi et précisé. De même, pour ce qui est de l'unique personne et des deux natures de Jésus-Christ, de même pour ce qui est du pécheur qui ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu. Donc, c'est seulement peu à peu que les doctrines de la foi, que les doctrines de l'Écriture vont peu à peu être précisées et qu'elles pourront être encore plus précisées dans les décennies ou les siècles à venir. Si vous voulez, de même que Jésus-Christ bâtit son Église au fur et à mesure que passent les siècles, et bien de même l'Esprit-Saint bâtit à travers les docteurs de l'Église les dogmes que finalement l'Église reconnaît comme le dogme de la Trinité, comme le dogme de Jésus-Christ, une seule personne et deux natures, comme le dogme de la grâce souveraine de Dieu pour le salut, comme le dogme de l'expiation, comme le dogme du salut par la foi, par grâce, par le moyen de la foi, comme le dogme de l'Écriture sainte, autorité souveraine. Donc, voyez, faites attention. Les dogmes sont approfondis et précisés, mais je dirais d'une manière intuitive, les chrétiens ont toujours cru cela. Les chrétiens fidèles ont toujours cru cela, mais ils ne pouvaient pas encore, ils ne savaient pas encore le préciser. Alors, nous avons affaire à un développement autour d'un mot qui qui est le mot satisfaction. C'est un mot qui est composé de deux mots latins, satis qui veut dire avec, en faire assez. On pourrait dire en ce qui s'agit de Jésus-Christ que non seulement Jésus-Christ en a fait assez, mais qu'il en a fait plus qu'assez. Par son sacrifice sur la croix, Jésus-Christ a parfaitement satisfait, ça veut dire qu'il en a fait plus qu'assez pour notre salut. La satisfaction de Jésus-Christ est une qui est employée le mot satisfaction, c'est le théologien de langue latine Tertullien. Tertullien, le premier à employer le mot satisfaction, mais il l'a employé, j'allais dire, presque en passant. Tandis que, avec Anselme et son cours des Goussonnement, l'idée, le concept de satisfaction va acquérir une ampleur considérable. Pour nous sommes d'un péché dont la gravité est entière, il ne fallait rien moins que l'intervention qu'a été l'incarnation. Jésus-Christ, la seconde personne de la Trinité, s'est fait homme. Il a parfaitement satisfait pour tous nos péchés. Alors vous voyez, le mot satisfaction est tout différent du mot français ordinaire d'aujourd'hui, satisfaction. On emploie le mot, la lecture d'un livre intéressant. Bon, mais vous voyez que le mot latin satisfaction, employé pour la première fois par Tertullien et développé dans le cours des Usulbos de Saint-Anselme, va bien au-delà de ses sens. Et alors on pourrait traduire pays par pays. Jésus-Christ a plus que payé pour nous sauver. Le prix de notre salut n'est autre que le sacrifice du Fils unique de Dieu sur la croix. Voilà. Le mot paiement est un mot qui approche du sens du mot latin satisfaction. Satisfaction, c'est faire assez, plus qu'assez, et bien au fond, il a payé. Alors bien entendu, il ne faut pas entendre le mot payer en termes économiques, en termes d'échanges commerciaux, c'est pas dans ce sens-là. Mais le prix. Vous savez, quelquefois en français, on emploie l'expression il a payé le prix du dévouement à sa cause. Il est allé jusqu'à la mort. Il a payé le prix. Oui. Alors là, il ne s'agit pas de payer en un sens commercial, en un sens financier, en un sens économique. Il s'agit de payer Jésus-Christ qui a donné sa vie. C'est ça, le paiement. Vous voyez donc, c'est. Le paiement, la satisfaction, il faut l'entendre dans un sens transcendant, dans un sens qui n'est pas celui du langage courant, mais Jésus-Christ a payé le prix de notre salut. Et ce prix, c'était sa mort sur la croix. Ce prix, c'était les tourments qu'il a subis jusqu'à être comme séparé de Dieu. Comme coupé de Dieu, comme abandonné de Dieu, et il a pu crier sur la croix, et à notre place, pour notre salut, a pleinement satisfait. Il a pleinement payé le prix. Et c'est pour ça que, en gros, un gros trait, c'est pas de la caricature, parce que je crois être fidèle au sens du livre de Saint-Augustin, mais si vous voulez, c'est en simplifiant les choses, l'introduction déjà, c'est plus d'un tiers du livre. Et ensuite, à la fin, il y a des cohérences, des citations, si bien que si on additionne la préface et les références de la fin du livre, il ne reste plus qu'un tiers du livre. Et sur ce tiers du livre qui reste, le livre n'est que la moitié, puisque sur la page de gauche, vous avez le texte latin, et sur la page de droite, les livres de Saint-Anselme sont finalement des livres très brefs. Et alors là, ça m'amène à une petite parenthèse, mais qui a son importance. Au Moyen-Âge, existait ce qu'on appelle la lection. Et si on traduit littéralement en français, c'est la lecture. Mais en fait, c'est pas exact. Encore aujourd'hui, dans certaines universités, il y a des lecteurs. Les lecteurs, ce n'est pas des bons hommes qui passent leur temps à lire. C'est pas du tout ça. La lecture, c'était au fond un cours qui était plus ou moins long, qui était plus ou moins bref, et auquel se référait l'enseignant, l'écolâtre, comme on disait alors. Vous savez que Saint-Anselme a été écolâtre à l'abbaye du Bec, en Normandie. Eh bien, quand Anselme enseignait à l'abbaye du Bec, en fait, il donnait des lectures. Il faisait des lectiones. Et chaque cours s'appelait une lection. Pourquoi une lection? C'est parce que c'était vraiment un texte. Alors, toute proportion gardée, je suis un petit lecteur au sens médiéval. C'est-à-dire que j'ai un texte. Donc j'ai fait la lecture et j'essaie de vous transmettre un condensé de ce que j'ai lu. Donc je suis un lecteur au sens médiéval et mon cours, si on peut appeler ça un cours, c'est une lection. C'est-à-dire que je me réfère à un texte me référant à un texte, j'essaie de vous en transmettre la substantifique moelle, comme aurait dit Rabelais. J'essaie de vous en transmettre l'essentiel. D'ailleurs, dans une faculté de théologie, on procède plus ou moins toujours par lectionnes, par des lectures. Pourquoi? Parce que le professeur du Nouveau Testament, presque normalement, il va se référer à un texte ou un livre du Nouveau Testament et il va chercher à vous en communiquer l'essentiel. De même le professeur d'Ancien Testament, de même le professeur d'histoire, de même le professeur de dogmatique. Au fond, il va grouper, le professeur dogmatique va grouper un certain nombre de textes de l'Écriture sainte pour exposer un point de la doctrine chrétienne, un point de la dogmatique, un point de la théologie systématique. Donc, dans les facultés de théologie, plus peut-être que dans d'autres facultés, on a plus affaire à des lectiones qu'à des cours. Parce que, finalement, tous les professeurs de théologie ont derrière tout ce qu'ils disent une lection fondamentale, qui est la lecture de l'Écriture sainte. Et au bout du compte, il s'agit toujours, quel que soit le cours d'une faculté de théologie, qu'il s'agisse d'histoire d'Église, qu'il s'agisse du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, etc., il s'agit toujours, parce que c'est l'arrière-fond de la lecture de la Sainte Écriture, de la lecture de la parole de Dieu. Alors, je voudrais maintenant, dans une seconde partie, voir quelques-unes des questions que s'est posé Anselme, qu'il a posées aux étudiants qui l'écoutaient, et sur lesquelles, aussi bien les étudiants que les écolâtres, les enseignants, réfléchissent. Et au fond, vous êtes invités par votre cours d'aujourd'hui, par le cours que je vous fais aujourd'hui, par la lection que je vous fais aujourd'hui, vous invitez à vous poser un certain nombre de questions. Et ce sont des questions vraiment fondamentales. J'énumère. Ce sont des questions donc, qui sont soulevées par le cours des Moussomos. Et vous allez voir que ces questions sont toujours actuelles. C'est des questions que saint Anselme s'est posées et a posées à ses étudiants au Moyen-Âge. Ce sont des questions toujours vivantes, toujours importantes. Par exemple, comment s'accorde la justice et la miséricorde de Dieu? Dieu est un Dieu juste, oui, mais il est aussi un Dieu miséricordieux. À l'inverse, Dieu est un Dieu miséricordieux, mais c'est aussi un Dieu juste. Alors, se pose la question théologique suivante, comment s'accorde la justice et la miséricorde? Comment Dieu peut-il être miséricordieux sans cesser d'être juste? Et comment peut-il être juste sans cesser d'être miséricordieux? Une question importante. Une question importante. Parce que c'est une question qui est existentielle pour nous. Notre existence dépend de notre réponse à cette question. Autre question, mais analogue. Comment Dieu peut-il pardonner un péché aussi grave que le nôtre? Un péché tant contre lui que contre le prochain. Comment Dieu peut-il pardonner? Sous-entendu, sans cesser d'être Dieu. Il y a un livre dont le titre paraissait blasphématoire, qui a paru il y a une vingtaine d'années, dont vous avez entendu parler, et un titre provoquant, qui était le suivant, « Dieu est Dieu, nom de Dieu ». Ça paraît un blasphème. Dieu est Dieu, nom de Dieu. Mais ce n'est pas du tout un blasphème. Dieu est Dieu, révélation de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la révélation de Dieu? Sinon, la nomination du nom de Dieu. Et le nom, on dit quelquefois dans la Bible, on dit le nom. Il faudrait, dans une traduction française, d'ailleurs presque toujours, écrire le nom comme ça. Le nom. Avec. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Voilà. Ça, c'est une parole du Décalogue. Alors, dans ce livre, Dieu est Dieu, nom de Dieu, eh bien, se pose toute la question, qui est Dieu? Et finalement, comment s'accorde la justice et la miséricorde de Dieu? Il s'agit, au fond, de qui est Dieu? Quel est ce Dieu, ce vrai Dieu que nous révèle l'Église tout sainte? Au bout du compte, quel est le nom de Dieu? Alors, nous avons tout un ensemble de questions qui se répètent sous des formes diverses. Je donne d'autres indications. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pardonné comme il a créé souverainement? Quand Dieu a créé le monde, il a dit une parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Et le récit qui nous est fait de la création dans le premier chapitre de la Genèse, on voit Dieu créer souverainement. Dieu a décidé de créer, il crée. Dieu a planifié de créer, il crée souverainement. Il n'y a pas, si je veux dire, de contrepartie possible. Tandis que quand il s'agit de notre pardon, Dieu peut pardonner comme ça, je te pardonne. Oui, mais ce n'est pas possible comme pour la création. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu veut pardonner à tous ceux qui se repentent et qui croient. Dieu est rempli de miséricorde. Oui, oui, attention. Dieu est quand même juste en même temps. Il est juste. Et le péché, c'est facile de dire « je te pardonne » comme ça, sans que ça coûte rien. Nous, quand nous pardonnons, souvent, pas toujours, il y a des fois où nous pardonner nous coûte. Bon, ça ne nous coûte pas le sacrifice de notre vie, mais ça nous coûte de pardonner. Tandis que Dieu, ça va lui coûter la vie. Non pas, Dieu ne peut pas mourir en tant que Dieu, mais ça va coûter la vie de Dieu qui va se faire homme pour pouvoir donner sa vie et mourir. Donc, nous nous trouvons là devant une question. Dieu ne peut pas pardonner comme ça en méconnaissant sa justice, en balayant sa justice. Le péché doit être expié. Le péché doit être condamné. Le péché, il faut payer le prix. Et alors, c'est là où le cours des moussombeaux prend toute sa place. Mais d'ailleurs, nous en avons tous les éléments dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Tous les éléments. Je pense dans l'Ancien Testament à l'admirable chapitre 53 du prophète Ésaïe. C'est pas rien, le chapitre 53 du prophète Ésaïe, par rapport à la question du cours des moussombeaux. En effet, que nous y tenons. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, Il était méprisé. Et ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Hein? Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ah, voilà pour l'Ancien Testament. Mais vous avez tous les textes du Nouveau Testament, en particulier dans l'Évangile de Jean, en particulier dans les lettres de Paul. Tous ces textes nous montrent que nous ne sommes pardonnés que parce que notre péché a été expié. La justice de Dieu voulait que le péché soit expié. Si le péché n'avait pas été expié, alors Dieu nous aurait pardonné au mépris de sa justice. Et la miséricorde de Dieu ne peut pas exister au détriment de la justice de Dieu. Et c'est là où ce que Saint Anselme a vraiment, pour la première fois dans l'histoire de l'Église chrétienne, vraiment développé dans ce traité qu'est son cours des Rousseaux. Et c'est ce qui est repris en quelques questions dans le catéchisme de Heidelberg. Et d'ailleurs, c'est aussi tout l'enseignement des réformateurs. Vous savez que Voltaire avait cette phrase horrible, « Dieu pardonnera, c'est son métier. » Dieu pardonnera, c'est son métier. Ah oui, ça lui est facile, il n'y a qu'à pardonner comme ça. Dieu ne pardonne pas comme ça. Notre pardon a coûté la vie au Fils de Dieu. Pour que nous soyons pardonnés, le Christ a donné sa vie en sacrifice sur la croix. Et donc, c'est quelque chose de formidable, ce salut. Dieu pardonnera. Non, le pardon a coûté à Dieu la vie humaine qu'il a assumé en Jésus. Dieu est mort pour nous. Et comme il ne pouvait pas mourir dans sa divinité, il a assumé une humanité afin de pouvoir mourir. Et c'est pour ça que Ésaïe 53 et d'autres textes de l'Ancien Testament, des lettres comme la lettre aux Galates, de Saint Paul aux Galates, ce sont fondamentales à la base cours des Rousseaux, comme à la base des questions 12 à 18 du catéchisme de Heidelberg, et à travers l'institution chrétienne de Calvin, tout ça revient. Il y a des gens qui parlent de Dieu comme du bon Dieu, bon Dieu. Le bon Dieu, c'est un peu le Dieu à la Voltaire. Pardonne-moi, c'est le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Nous, c'est bien sûr que Dieu est bon, ça, c'est sûr, mais notre Dieu n'est pas le bon Dieu. Notre Dieu est Dieu. Comme ça que Dieu nous pardonne, simplement parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que de pardonner, c'est son métier. Non. Dieu nous a tous aimés, qu'il a voulu payer à notre place pour notre péché. Alors, voilà pourquoi Dieu s'est fait homme. Bon, alors, je vous ai lancé quelques idées. Et dans les quelques minutes qui me restent, j'ai parlé un petit peu de l'avant en scène, avec l'Épître à Tenier, Tertullien, Athanase, Augustin, j'aurais pu citer, je n'ai pas pu développer, Grégoire de Nanance, Abélard, qui était un drôle de coco, comme vous savez, Abélard, lui, alors là, il y a les livres de Régine Bernou, par exemple, il y a le livre de Régine Bernou sur Héloïse et Abélard, qui est un livre admirable, mais pas du point de vue théologique, mais du point de vue historique. Régine Bernou n'est pas une théologienne, mais elle est terrible dans le cas d'Abélard. Abélard est tout à fait dans la ligne pélagienne. J'ai dit qu'à travers tout le Moyen-Âge, il y a eu la ligne augustinienne et la ligne pélagienne. Alors, Abélard, lui, il a parlé mais complètement de travers. Tandis que, par contre, Bernard, qui suit d'une génération environ en scène, Bernard, dont je commencerai à vous parler dans 15 jours, eh bien, Bernard, Saint-Bernard de Clairvaux, a suivi vraiment et développé la ligne de Saint-Anselme. Il n'a pas fait autant que les réformateurs allaient faire, mais c'est ça que je voulais nous dire en terminant. Et après Saint-Anselme, nous avons vu l'avant Saint-Anselme, avec le Thérapie, Julien, Athanase, Augustin, et puis il y a l'après Saint-Vincent. Ce concept n'a pas vu, en tout cas, il ne l'a pas développé, c'est la référence à la punition du péché dans l'expiation. Au fond, chez Anselme, on ne trouve pas établie la relation directe qu'il y a entre la satisfaction christique, la satisfaction du Christ, le paiement par le Christ, et la volonté punitive de Dieu. Il décrit la dette du péché comme étant payée par quelqu'un, mais qui ne s'est pas substitué au pécheur. Et c'est là où il va y avoir un progrès théologique. Bernard commence déjà à le voir, mais je vous en parlerai quand on parlera de Saint-Bernard, mais ceux qui ont développé la ligne enseignienne sont les réformateurs. Et chez les réformateurs, il va y avoir une nouveauté. La nouveauté est la suivante. Pour Saint-Anselme, nous sommes sauvés essentiellement par ce que les réformateurs appelleront l'obéissance passive du Christ. Passive. D'ailleurs, le mot passif est en relation aussi avec le mot passion. Autrement dit, Jésus-Christ est notre sauveur parce qu'il est mort sur la croix. Et c'est l'obéissance passive de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, obéissance passive? Ça veut dire que Jésus-Christ se trouve comme jugé, condamné, mis à mort, et Jésus se range à tout cela. Non pas qu'il ne faut pas dire que c'est passivement, mais, si vous voulez, notre salut est dans ce que Jésus-Christ a souffert dans sa passion et dans sa mort. Tandis que les réformateurs vont dire, c'est vrai, ça, l'obéissance passive de Jésus-Christ, c'est exact. Mais ils vont développer l'idée, dans le don de l'expiation, de l'obéissance active de Jésus-Christ. Et alors là, c'est tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Pourquoi est-ce que c'est important, ce développement de la pensée augustino-anselmienne par les réformateurs? Pourquoi est-ce que les réformateurs ont voulu développer ce que Saint Augustin avait commencé à dire et ce que Saint Anselme a dit beaucoup mieux encore dans son cours des Houssons? Pourquoi? C'est parce que les réformateurs se sont dit, nous ne sommes sauvés que parce que Jésus-Christ s'est soumis pour nous à la loi de Dieu. Mais disent les réformateurs, Jésus-Christ ne s'est pas seulement soumis à la loi de Dieu dans son aspect de condamnation, mais il s'est soumis aussi à la loi de Dieu dans son aspect positif, parce que tout au long de sa vie, dès son enfance, dès sa petite enfance, dès son adolescence, et au long de son âge mûr, notre Seigneur Jésus-Christ a obéi activement. Ça veut dire qu'il s'est appliqué activement à suivre la loi de Dieu. Et c'est important pour notre salut. Parce que, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de deux choses, dit les réformateurs. D'abord, nous avons besoin que notre péché soit puni. Alors là, ils ont développé cela. Saint Anselme n'a pas établi la relation directe entre la passion de Jésus-Christ et la punition due à notre péché. Il a bien dit que Jésus-Christ s'est chargé de nos douleurs, comme l'enseignait Ésaïe 53, mais il n'a pas vu assez, ou plutôt, même s'il l'a vu, il n'a pas dit suffisamment que notre Seigneur Jésus-Christ a été puni à notre place. Vraiment puni, frappé à notre place. C'est par exemple, on ne trouve pas dans le cours des Musulmans le commentaire du « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si vous voulez, que c'est ce que développait Calvin quand il parlait de l'article du Credo, il est descendu aux enfers. Pour Calvin, Jésus-Christ est descendu aux enfers, ça veut dire qu'il est allé jusqu'à être abandonné de Dieu, maudit de Dieu à notre place. Voilà. Ça, c'est le premier point. Mais les réformateurs vont plus loin. Ils disent, il ne suffit pas que notre péché soit puni pour qu'il soit expié, mais il faut que quelqu'un, à notre place, ait parfaitement obéi à la loi de Dieu, parce que c'est seulement si Jésus-Christ a été d'une obéissance active tout au long de notre vie, s'il a parfaitement obéi à la loi de Dieu, c'est seulement si Jésus-Christ a fait cela, que en union avec Jésus-Christ, en union avec Jésus-Christ, comme mission, à notre tour, commencer à obéir activement à la loi de Dieu. Alors, vous voyez, c'est l'autre aspect. Jésus-Christ ne nous sauve pas seulement en payant à notre place et en payant, les réformateurs vont jusqu'à dire, en payant jusqu'à l'enfer, jusqu'à la séparation de Dieu, jusqu'à l'abandon de Dieu. Mais Jésus-Christ est celui aussi en communion duquel nous pouvons commencer à vivre dans l'obéissance à la loi de Dieu. Autrement, si la loi de Dieu n'est pas seulement une loi qui nous condamne, parce que notre péché doit être expié, mais la loi de Dieu est aussi l'indication de la reconnaissance que nous devons à Dieu, l'indication de l'obéissance que nous devons à la loi de Dieu. Jésus qui nous sauve de la punition du péché et nous sauvant de la punition du péché, en nous plaçant dans sa communion, il nous permet de commencer à obéir activement à la loi de Dieu. Alors si vous voulez, pour les réformateurs, le premier point, c'est la question de notre justification. Nous ne sommes justifiés que parce que Jésus-Christ a payé à notre place et a été puni et maudit par Dieu à notre place, hein, mais aussi, et ça c'est, il y a notre sanctification. Et notre sanctification, c'est que dans la communion avec ce Jésus-Christ qui nous justifie, nous pouvons commencer à obéir vraiment à la loi de Dieu. Veuille le Seigneur qui nous a pleinement justifiés en Jésus-Christ nous permette, par le secours de son Saint-Esprit, à avancer dans le chemin de notre sanctification. Voilà.